France Culture.
Bonjour Philippe Mérieux.
Bonjour.
Pour ce quatrième temps de Nos Avoix Nues, je voudrais qu'on plonge un peu dans l'histoire, qu'on comprenne l'histoire, le sens et la portée des batailles scolaires qui ont été nombreuses. Et d'ailleurs, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. L'école a toujours été un champ de bataille, peut-être depuis la création de l'école républicaine. Comment l'expliquez-vous ? Pourquoi c'est si difficile ce sujet de l'école en France ?
Parce que l'école est au carrefour, au croisement de nos intérêts individuels, le souci que nous avons de l'avenir de nos enfants et de chacun de nos enfants, et puis d'une question éminemment collective. Qu'est-ce qui fait commun et qu'est-ce que c'est qu'une institution au service de la République ? Alors, entre nos intérêts individuels et le bien commun, eh bien, les choses ripent parfois, et on l'a vu dans l'histoire à de nombreuses reprises, sur la question de la laïcité, sur la question de l'enseignement privé. On l'a vu aussi sur les questions de la pédagogie. Je rappelle parfois que Jules Ferry avait nommé à la Sorbonne un professeur de sciences de l'éducation qui s'appelait Henri Marion. Et cet homme-là était l'objet d'une cabale absolument fantastique de tous les intellectuels de l'époque, et en particulier du rédacteur en chef de la Revue des Deux Mondes, qui était la grande revue de l'époque, qui le persécutait en lui disant « Mais la pédagogie, ça ne sert à rien. On n'a besoin que de savoir. Qu'est-ce que vous vous échinez à enseigner des choses inutiles ?» et qui vont même détruire cette école que nous construisons par ailleurs. Donc le débat entre les partisans de la pédagogie d'un côté et les partisans des savoirs de l'autre, qui est un débat qui, à bien des égards, est presque ridicule, est un débat dont on peut dire qu'il est quasiment constitutif de l'histoire de l'école française.
Alors je vais revenir sur le mot ridicule, vous allez vous expliquer, Philippe Mérieux, mais effectivement, il a beau être ridicule selon vos propres termes, ce débat, il a été assez durable, parce qu'il est constitutif de l'école républicaine, mais il a duré alors plus d'un siècle, voire peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il est fini. Et il se trouve que vous, en tant que personne, vous avez concentré, d'une certaine façon, toutes les critiques. Je le dis en souriant, parce qu'il vaut mieux sourire, mais je pense que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Vous êtes autant investi, et on l'entend depuis le début de ces émissions, vous êtes un passionné par toutes ces questions, vous y avez consacré votre vie, donc vous êtes autant investi que vous avez été critiqué, autant admiré que vous avez pu être contesté. Souvent, vous avez été pris à partie par des intellectuels, par des enseignants qui se disaient en total désaccord avec votre position. On peut les citer, hein, parce qu'il n'y a pas de problème, ça a été tout à fait rendu public. Je pense à Alain Finkielkraut, je pense à Marcel Gaucher, à Natacha Polony, bien d'autres. Régis Debray, même si le cas Régis Debray, on va y venir peut-être, est un peu à part. Et pendant des années, vous vous êtes opposé dans une querelle qu'on a appelée, vous venez de le faire, la querelle des républicains contre les pédagogistes, qui opposaient deux visions antagonistes de l'éducation en France.
Oui, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, Daniel Hamelin, et qui a été à bien des égards mon maître sur les questions éducatives et de pédagogie, dit que c'est au fond le vieux débat français entre Voltaire et Rousseau. Entre Voltaire, un homme brillant, avec beaucoup d'alacrité, sans état d'âme, qui est capable de mettre un ennemi à terre avec un mot d'esprit, un homme qui représente en quelque sorte la culture personnifiée, et puis Rousseau, d'un autre côté, un homme un peu besogneux, introspectif, assez torturé, qui s'intéresse à la jeunesse des choses et qui cherche comment les choses se construisent dans l'individu. Entre ces deux sensibilités, probablement que la France a été déchirée et qu'elle a souvent choisi Voltaire. D'ailleurs, à Paris, il y a un grand boulevard Voltaire, mais une toute petite rue Jean-Jacques Rousseau. Et je crois que cette opposition, elle renvoie à quelque chose qui travaille la pédagogie, qui travaille l'enseignement. Moi, je dis toujours, on enseigne toujours quelque chose à quelqu'un. Si on se fixe exclusivement sur le quelque chose sans s'intéresser à le quelqu'un, on risque de croire qu'il suffit d'enseigner pour que les élèves apprennent. Ça, nous savons que c'est pas vrai. Et donc, la question, c'est de combiner les deux. On enseigne quelque chose à quelqu'un, et donc, avec une attention à la personne, à sa résistance, dont nous parlions, à quelque chose qui va émerger dans cette relation où rien n'est joué d'avance et où il ne suffit pas de déclarer les choses pour qu'elles adviennent. Il faut les faire advenir.
Bon, ça c'est la position d'aujourd'hui, Philippe Mérieux de 2024, qui est modéré, qui a compris que peut-être la vérité et la justesse étaient au milieu, mais les positions n'ont pas toujours été comme ça. Je vous pousse un peu parce que...
Non, c'est pas au milieu, c'est pas le juste milieu. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la tension entre des choses qui peuvent apparaître contradictoires et qui, pour un certain nombre de gens, les travails de l'intérieur et qu'il faut s'efforcer de tenir ensemble. Voilà. Et tenir ensemble des choses contradictoires, Pascal le disait déjà, Edgar Morin l'a bien théorisé, c'est pas facile, on préfère souvent basculer et osciller de l'un à l'autre.
Cette bataille, cette querelle des républicains contre les pédagogistes, elle a eu, en tous les cas, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, deux temps forts, on va dire. Il y a eu le tournant des années 80, je parle sous votre contrôle, hein, et puis il y a eu le tournant des années 2000. Il y a eu en 1979 un livre d'Antoine Prot, Éloge des pédagogues.
Absolument, un magnifique livre.
À quoi a répondu en 1983 un livre de Jean-Claude Milner, référence
de l'école.
Voilà, le titre c'était « De l'école » et Jean-Claude Milner avec ce livre a été la référence des contempteurs du pédagogisme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle encore, si tant est que c'est encore valable ce terme, le pédagogisme ?
C'est peut-être l'oubli qu'on enseigne quelque chose, c'est le fait de se centrer sur le fait qu'on enseigne à quelqu'un en oubliant qu'il y a un contenu, qu'il y a des médiations et qu'il y a une exigence de la culture. Ce qui est étonnant, c'est que cette accusation est portée à l'égard de gens qui ne sont pas des ignorants, ni même des gens qui se désintéressent de la culture. Elle est portée d'une certaine manière à l'égard de ceux et celles qui sont attentifs aux inégalités scolaires. Voilà. Et on voit derrière cette querelle, alors je prends position bien sûr, une forme de critique radicale de ce que Milner, Finkielkraut et d'autres appelleront l'égalitarisme, cette idée que on renonce à l'exigence au nom de l'accès égalitaire de tous au savoir. Alors bien sûr, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y aurait une forme d'égalitarisme qui serait un peu un renoncement. On donne des bonnes notes à tout le monde et on dit qu'on a démocratisé l'école. Mais je crois pas que les pédagogues qui se reconnaissent dans mon travail soient sur cette position. Je crois qu'ils sont sur l'idée de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Exclusion de la culture, exclusion de ce qui permet de penser par soi-même, exclusion de ce qui permet de comprendre le monde. Et cette lutte contre toutes les formes d'exclusion, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle est l'expression de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. On nous a dit, mais vous expliquez que l'élève doit construire son propre savoir. On n'a jamais dit que l'élève construisait seul son propre savoir. On a dit qu'un savoir véritablement acquis, intériorisé, approprié, était un savoir qui était métabolisé, c'est-à-dire qui appartenait à la personne. Et que tout être humain avait droit à la culture, mais qu'une culture qui s'imposait par la violence n'était pas vraiment digne de porter ce nom.
Je vais me faire l'avocat du diable, bien entendu, mais à la violence, certains de vos contempteurs, de vos détracteurs, utiliseraient plutôt le terme « autorité ». C'est l'autorité et pas la violence quand on dit que c'est l'autorité du maître, la discipline, qui peut transmettre le savoir parce qu'on a un cadre.
Bien sûr qu'il faut un cadre, et je suis le premier à avoir clairement dit depuis toujours qu'il fallait un cadre. J'ai beaucoup appris de mes collègues qui prônent ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle, qui disent il faut instituer l'école, instituer la classe, construire un collectif où le vrai l'emporte sur la force, sur la violence, et il faut tenir ce cadre. Ce que je trouve dommage chez un certain nombre de contempteurs de la pédagogie, c'est qu'ils sont dans une sorte d'exaltation de la fonction performative du langage. C'est-à-dire, ils pensent qu'il suffit de dire les choses. Voilà. On dit travailler, on dit écouter, on dit faites ceci, faites cela. La France est très forte pour ça. On aime les chartes, on aime les déclarations. Moi, je crois que en éducation, ce qui instruit vraiment, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et ce qui est essentiel dans l'école, c'est pas ses déclarations générales et généreuses, c'est ce qu'elle fait avec les élèves et ce qu'elle fait est une leçon de citoyenneté. Et ça, pour moi, c'est fondamental et je trouve extravagant ces gens qui passent leur temps à dire « imposez-vous, l'autorité ». Oui, l'autorité, bien sûr que je suis partisan de l'autorité au sens étymologique, ce qui autorise l'autre à penser par lui-même. L'autorité, ce qui autorise le collectif, l'autorité qui incarne une règle, et une règle qui va être celle qui permet le bien commun. L'école est un truc formidable parce que c'est un endroit où des êtres qui ont chacun une histoire singulière, avec des accidents dans leur vie, avec des richesses, avec des difficultés, vont partager les mêmes savoirs. Et ce rapport entre la différence de chacun et les mêmes savoirs que tous apprennent, pour moi, c'est un modèle de société. Moi, je crois que c'est ça pour moi, l'école. Alors, vous évoquiez Alain Finkielkraut il y a un instant. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le travail qu'il fait. En même temps...
Vous avez été de nombreuses fois invité sur Réplique.
Oui, bien sûr, et je lui en sais gré. En l'an 2000, donc dans le deuxième temps de cette grande polémique que vous évoquez, Alain Finkielkraut publie un livre qui s'intitule « Une voix qui vient de l'autre rive », où ses accusations à mon égard sont quand même terribles. Je vous lis, hein. Il parle de la pédagogie et il commente une citation dans laquelle je dis qu'il faut permettre à chacun et à chacune d'exercer sa raison, d'accéder à la raison et de mettre en délibération ses convictions pour accéder ensemble à la vérité. Et Alain Finkielkraut conclut ce chapitre par ces phrases-là qui sont quand même terribles. Le noble souci, dit-il, de guérir la culture de ses compromissions ou de ses inclinations barbares conduit à placer l'universel sous la juridiction exclusive de la rationalité instrumentale. Et il termine, celle-là même qui a été mobilisée pour les usines de la mort et qui a conféré aux crimes administratifs du XXe siècle leur atypique banalité et leur monstruosité sans pareil. Alors ça, c'est quand même extrêmement violent. Faire de la pédagogie ce qui est susceptible de créer de nouveaux Auschwitz, pour moi, ça a été extrêmement dur. J'ai cherché à comprendre quelle vérité il y avait là-dedans, parce que moi, j'essaye de pratiquer ce que nous appelons chez les universitaires la charité épistémologique, vous savez, c'est-à-dire le fait de chercher ce en quoi l'autre peut avoir raison dans son système. J'ai cru comprendre ce qu'il voulait dire. Au fond, il dit, en mettant des capacités, des compétences, celles de discuter de manière solidaire, d'accéder à des savoirs d'une manière autonome, en mettant cela en avant, Mérieux est en train de sous-estimer l'importance de l'enseignement d'une culture qui s'imposerait, qui ferait collectif à tous. Et il dit... Il a substitué l'école procédurale à l'école substantielle. L'école substantielle, c'était celle qui n'avait pas d'état d'âme et qui enseignait des contenus. Et l'école procédurale serait celle qui enseignerait des méthodes, en quelque sorte. J'entends cette critique. J'entends sans y adhérer, parce que j'ai jamais sacrifié les contenus au profit des méthodes. En même temps, les méthodes sont des contenus. La parole sereine plutôt que la violence... C'est un contenu, c'est quelque chose qui porte une valeur. Quand je dis le sursis à la réaction immédiate plutôt que la spontanéité inutile, c'est des valeurs aussi. Quand je dis le concept plutôt que le slogan et apprenons à penser ensemble à l'école à partir de nos représentations en les dépassant, ce sont des valeurs et ce sont des valeurs qui me paraissent constitutives de ce qui nous permet de faire société. Ce ne sont pas des valeurs qui abolissent les contenus culturels. Moi, les contenus culturels, j'y crois beaucoup. Avec mes élèves de BEP, je travaillais en français sur la théogonie d'Hésiode. Parce que la théogonie d'Hésiode, ça leur parlait. Un père qui tue ses enfants, qui mange ses enfants, ça leur parle aux jeunes parce que ça renvoie à des fantasmes individuels et collectifs. Et je travaillais sur Maupassant, je travaillais sur des auteurs importants, mais je m'efforçais que dans ce travail, on construise quelque chose qui ressemble à une société pacifiée, où les gens peuvent se parler, où les gens ne renient pas là d'où ils viennent forcément, mais ils assument qu'ils peuvent faire ensemble une société fraternelle. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Alors, j'entends la peur d'une sorte de multiculturalisme où tout se mélange, où on dit que tout égale à tout, etc. Je vois certaines dérives qui ont pu être pointées. Oui, on fait des TPE sur le slam, alors qu'on devrait le faire sur Proust.
Et pas seulement le slam, il y a eu les petites annonces, les modes d'emploi, des manuels, on vous a pas mal reproché ça.
Oui, mais... Je crois que...
Privilégier ces textes dits fonctionnels à des œuvres, oui, de la culture. D'ailleurs, vous vous en êtes expliqué en disant « Oui, j'ai fait des erreurs, ça c'était peut-être une erreur. »
Oui, enfin, on pourra revenir sur cette question.
La note encore.
Peut-être sur quand même cette façon qu'on a eu de nous critiquer. Alain Finkielkraut dit que je suis un garde rouge de la sous-culture. De préférer la sous-culture jeune à la grande culture. Moi, je préfère la grande culture, mais parfois il faut partir... de ce qui aujourd'hui mobilise les jeunes. Et puis c'est l'exigence qui va faire qu'on va monter, on va chercher, et qu'à partir de quelque chose, je travaille sur les mangas, je vais arriver à Hésiode, parce que je vais interroger sur qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur, à quoi ça renvoie, et l'exigence du professeur va progressivement permettre à l'élève de passer de cette sous-culture.
Moi je vous interromps parce que pour le coup je trouve que sous-culture et culture authentique sont des termes éminemment contestables.
Ah, tout à fait.
Il y a eu des ouvrages de grande sociologie pour parler plutôt d'ailleurs de culture savante et de culture populaire, et pour montrer qu'on est tous et toutes tenants d'une culture savante et d'une culture populaire.
Absolument.
Voilà.
Je ne les emploie qu'avec des guillemets et en référence à ceux et celles qui précisément nous accusaient d'être des gardes rouges de la sous-culture.
Quand vous parlez des textes, j'y reviens, fonctionnels comme des modes d'emploi ou des petites annonces, alors je vais peut-être un peu loin, hein, ou des manuels, là, ça n'est pas de la culture, là. Là, c'est du quotidien, et d'ailleurs, on vous a accusé de mépriser les cultures populaires en disant, voilà...
C'est incroyable. On a, à un moment donné, et en particulier dans le cadre de l'alphabétisation, beaucoup insisté sur les textes fonctionnels, les textes pratiques du quotidien. C'est pas pour enfermer les gens dans le quotidien, c'est pour partir, mais pas aboutir à. On m'a accusé de vouloir enseigner la lecture sur des textes, sur des modes d'emploi. Mais enfin, moi j'ai soutenu à fond une méthode d'apprentissage de la lecture à partir de l'Iliade et l'Odyssée. Et ceux qui m'accusaient d'utiliser les modes d'emploi, ils n'ont pas regardé les manuels d'apprentissage de la lecture et la stupidité des textes sur lesquels on apprend à lire aujourd'hui. Ils ne sont ni fonctionnels ni culturels, ils sont tout simplement bêtes. Voilà. Cette opposition que vous avez justement dénoncée entre la sous-culture et la grande culture est une opposition qui, pour moi, n'a pas de sens. Prendre les gens comme ils sont ne veut pas dire les laisser là où ils sont. Mais on est bien obligé de les prendre comme ils sont, sinon on les abandonne.
Sur cette idée, Philippe Mérieux, que les pédagogistes prendraient une vision centrée sur l'élève et ses besoins, on fait toujours référence à cette loi d'orientation sur l'éducation en 1989, où il aurait été écrit que l'élève devait être au centre du système éducatif. Et là aussi, vous avez concentré toutes les critiques.
Oui, alors d'abord, cette expression ne date pas de 1989, elle date des années 1810. Elle est faite en Allemagne et elle est reprise d'ailleurs à son compte par Jules Ferry et ses collaborateurs. D'abord, c'est pas l'enfant, hein, c'est l'élève. L'élève, c'est-à-dire l'enfant qui apprend. Moi, je crois que effectivement, l'enfant qui apprend les savoirs est au centre du système parce que c'est lui qui apprend, c'est pas moi. Et je vais me mettre au service de ses apprentissages, pas au service de ses caprices. Je fais pas alliance avec toi, mon élève, pour n'importe quoi. Je fais alliance avec toi pour que tu te dépasses, que tu ailles plus loin. Et cette alliance, elle est pour moi fondamentale et je crois que les pédagogues sont dans cette alliance-là, cette alliance pour aller plus loin, face à ceux qui se disent que ce qui résiste après tout au savoir et à l'injonction, au plaisir de l'injonction, de la fascination de la parole, ne mérite qu'à être laissé sur le bord du chemin.
On parlera demain dans la dernière émission des réalités de l'école aujourd'hui. Mais on vous a aussi reproché, et on va terminer là sur les reproches quand même, on vous a aussi reproché, Philippe Mérieux, de porter une vision trop idéaliste de l'école, de la pédagogie, de l'éducation, qui ne tiendrait pas compte des réalités.
Oui, moi je crois que je porte effectivement une vision idéaliste de l'école. C'est une vision qui s'inscrit dans la lignée de Condorcet, de Buisson, même s'il y a des nuances extrêmement importantes entre l'un et l'autre. Je crois qu'il nous faut un idéal d'école. Il n'y a pas d'école idéale. Et il n'y aura jamais d'école idéale. Parce que l'école idéale, ce serait l'école où les élèves viennent spontanément sans y être obligés, à la fin du cours restent là pour dire au professeur « continuez donc ». Mais non, on sait bien que... L'école, c'est pas la fête. Hein. La fête, c'est quand il n'y a pas école pour l'immense majorité des enfants. Hein. Un idéal d'école, c'est ce qui indique la direction. C'est ce qui fait qu'on peut travailler. C'est ce qui fait aussi qu'on peut ne pas se décourager face à cette multitude de réformes institutionnelles qui se télescopent et qui arrivent sur la tête des enseignants sans qu'ils aient à y réfléchir, parce qu'ils ont un cap. Et je pense qu'avoir un cap, c'est plutôt nécessaire dans un moment où quand même le découragement nous guette, parce qu'on peut pas dire quand même que dans le monde dans lequel nous sommes, l'éducation est complètement réussie. Mais gardons le cap. Si on l'abandonne, il vaut mieux faire un autre métier, il vaut mieux faire autre chose. C'est pas la peine de gaspiller son temps dans l'éducation.
Philippe Mérieux, j'évoquais le nom de Régis Debray au début de cette émission, et en disant que Régis Debray avait peut-être été un cas un peu à part dans cette querelle.
Oui, pas seulement Régis Debray, avec Marcel Gaucher et d'autres. Ça a été très dur au début avec Régis Debray. Notre première rencontre, il m'a dit « Vous incarnez tout ce que j'exècre ». Et puis on a parlé. Et quand on parle, quand on regarde de près les choses, on s'aperçoit que là où il y a des représentations fantasmatiques, eh bien, il y a souvent des erreurs, et que l'autre n'est pas cette espèce de diable dont on a besoin pour se définir
Mais
soi-même.
Mais vous étiez attaqué ou vous attaquiez aussi?
Non, moi,
là, vous avez
pas.
L'air de dire que vous aviez raison sur tout, qu'ils avaient tort sur tout et qu'ils sont venus à votre raison.
Je crois pas qu'ils soient venus à ma raison. Je crois pas que Régis Debray ou Marcel Gaucher aient reculé de quoi que ce soit sur ce qu'ils pensent. Mais je crois que ils ont entendu que les gens qui travaillaient avec moi et moi-même, on n'était pas la caricature que les médias et un certain nombre d'auteurs colportaient, qu'on était plus dans la complexité, voilà. Moi, je revendique d'être dans la complexité, pas d'avoir raison sur tout. C'est compliqué de tenir compte en même temps de l'exigence des savoirs, de la sensibilité et de la personnalité des élèves. C'est compliqué d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Il vaudrait mieux enseigner sans avoir personne. D'ailleurs, beaucoup d'universitaires imaginent que l'université serait beaucoup plus facile s'il n'y avait pas d'étudiants. Et on peut imaginer qu'il y a cette espèce de fantasmatique d'un enseignement où les élèves seraient des sortes de poupées de cire qui absorberaient d'une manière magique tout ce qu'on leur dit. Quand j'enseigne, presque je suis tenté d'adhérer à cette idée qu'il suffit d'affirmer bien tout ce que je crois pour que les autres comprennent et adhèrent. On peut être tenté de cela, mais c'est pas vrai, ça marche pas. Moi, j'admets que c'est compliqué et que les choses ne se résolvent pas dans des oppositions binaires journalistiques, elles se résolvent dans la pratique.
C'est pour ça que vous
trouvez... Elles se résolvent sur le terrain.
C'est pour ça que vous trouvez, Philippe Mérieux, que ce débat, au fond, est ridicule?
Il est ridicule. En même temps, je pense qu'il ressurgira toujours d'une manière ou d'une autre parce qu'il nous traverse chacun d'entre nous. Un professeur est quelqu'un qui est d'abord attaché à un savoir. Nous sommes travaillés par cette idée que transmettre nous tient à cœur, mais que les autres ne sont pas des cire-molles dont on peut faire n'importe quoi. Et c'est ce travail-là, c'est l'acceptation de cette contradiction qui, pour moi, nous fait entrer dans la pédagogie. Et là, je dirais, quelle que soit notre orientation idéologique, accepter que il nous faut à la fois la passion de transmettre et l'attention minutieuse, vigilante à la résistance de ceux à qui on s'adresse, et que dans cette contradiction-là, on invente, on vit, on avance. Accepter ça, c'est le cas à la fois de ce que j'essaye modestement de faire et de ce que probablement font aussi un certain nombre de ceux qui nous ont critiqués.
Est-ce que, d'une certaine façon, ça vous a aussi fait avancer ? Vous faites beaucoup de conférences, vous intervenez beaucoup dans les médias. Vous avez aussi beaucoup écrit. Est-ce que tout ça participe de votre volonté justement d'avancer, peut-être de progresser même dans votre pensée à vous ?
Oui, sans aucun doute. Moi, il y a un certain nombre de critiques dont je me serais bien passé, parce que parfois, quand même, ça a dépassé ce qu'on pourrait appeler les règles du débat intellectuel. Et ça tombait dans à la fois la grossièreté, le procès d'intention. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, ça m'a permis d'écrire, ça m'a permis d'approfondir, ça m'a permis de creuser cette résistance, de comprendre... Ce qui fait que enseigner quelque chose à quelqu'un, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est essentiel, que c'est une aventure, que c'est pas une procédure. Or, je vois aujourd'hui quelques-uns qui encore imaginent que c'est une procédure magistrale, voilà, c'est beau. Oui, bien sûr, dans certains lycées, en classe préparatoire, c'est une belle procédure, c'est un théâtre où le cours se déroule dans une espèce d'ambiance quasiment religieuse. Ça peut fonctionner avec des gens qui partagent, on pourrait dire pour parodier Buñuel, le charme discret de la bourgeoisie, mais ça peut pas fonctionner avec des élèves un peu compliqué, un peu difficile. Alors pour cela, on cherche d'autres types de procédures, des procédures mécaniques issues des neurosciences par exemple, qui fonctionnent pas non plus. Accepter qu'enseigner, c'est ni une procédure religieuse, ni une procédure mécanique. mais que c'est une aventure qui exige de l'investissement, mais aussi de la recherche. Faire en sorte que tout enseignant soit un chercheur dans son propre travail, c'est un combat qui, je crois, mérite d'être mené.
J'aimerais vous poser la question dans l'autre sens. Est-ce que, parfois, ces attaques vous ont affecté ? Vous êtes senti seul contre tous, alors pas forcément tout seul, vous n'étiez pas le seul pédagogue, dit pédagogiste, mais quand même, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être, un sentiment d'injustice, d'être parfaitement incompris ? Et est-ce que parfois, les attaques vous ont personnellement touché ?
Oui, bien sûr, ce serait absurde de dire l'inverse. En même temps, vous avez dit, et j'y insiste, moi j'étais pas tout seul, j'ai eu la chance de travailler dans des équipes, j'ai eu la chance de vivre des vraies solidarités, de découvrir des gens qui travaillaient exactement dans la même perspective et avec qui nous avons pu partager beaucoup de choses. J'ai eu une chance énorme, c'est de pouvoir sentir de temps en temps qu'on peut être utile parce qu'on peut redonner confiance à des gens. Voilà, moi je crois pas que les universitaires ou les chercheurs ou les intellectuels soient simplement cantonnés à chercher le vrai. Oui, il faut chercher le vrai. Chercher le vrai est utile. C'est même une exigence épistémologique fondamentale. Mais redonner aux gens le courage du quotidien, leur redonner confiance dans ce qu'ils font, c'est pas une entreprise méprisable. Et moi, cette entreprise-là, je la considère comme même fondamentale.
Il y a deux souvenirs que vous relatez dans un de vos ouvrages. Un souvenir où vous racontez que votre fille, qui était en terminale à l'époque, vous avez raconté que son professeur de philosophie posait à tous les cours une bouteille de champagne sur son bureau en disant « Le jour où Allègre et ton père tombent, on débouche la bouteille ». Et puis vous racontez un autre souvenir de message adressé par un enseignant à d'autres enseignants. Si vous avez les enfants merieux dans vos classes, ne les ratez pas.
Ça, c'est un peu difficile, effectivement. Puis c'est un peu lâche aussi. Si les gens ont envie de s'attaquer à moi, qu'ils s'attaquent à moi, à mes enfants, c'est à mon avis particulièrement injuste. Oui, ça touche tout ça, bien sûr. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène du débordement permanent. Je pense que les choses, quand même, se sont calmées depuis ce temps-là. Elles se sont apaisées, même si on retrouve quand même des violences de ce type, mais sur d'autres fronts. Je pense en particulier à la question de la laïcité, qui aujourd'hui fait l'objet de tensions extrêmement vives.
Ou aux questions sexuelles.
Les questions qui touchent aussi le privé public. On voit que les questions se déplacent. Je ne suis pas sûr que le débat pédagogiste et républicain revienne à l'ordre du jour dans les semaines ou les mois qui viennent, ou les années qui viennent. Il est possible qu'il revienne. En tout cas, c'est un débat, mais c'est aussi une contradiction féconde entre ce qui privilégie les contenus culturels et ce qui privilégie l'attention aux élèves. C'est une tension qui nous indique la nécessité de ne pas être dans l'exclusion de l'un ou de l'autre, mais de les prendre ensemble et de traiter ensemble ces deux questions.
C'est un cap. Merci Philippe Mérieux.
Merci
à
vous.
On se retrouve pour la cinquième et dernière émission demain, intitulée « La réalité et l'idéal ». On parlera bien entendu de l'école. À demain.
Merci et à demain.
C'était À Voix Nue avec Philippe Mérieux, réalisation Manouchak Fachahi, prise de son Benjamin Reyes, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.